je vais vous présenter les habitats écologiques avec mes partenaires Victor, Lucie, Martin. Le fonctionnement d'une maison écologique. Dans les maisons écologiques, on trouve souvent un système solaire thermique, une isolation extérieure, un système de récupération d'eau de pluie, des lampes basse consommation, un poêle à bois ou à granulés, une chaudière automatique à granulés de bois ou une pompe à chaleur géothermique ou aérothermique, des panneaux photovoltaïques, un chauffage solaire, un double ou triple vitrage, un automatisme et des commandes à distance, un mur végétal.
Écologique, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui respecte l'environnement. Une maison écologique est une maison qui va respecter l'environnement, pas qu'avec ses fonctionnements, avec aussi sa construction. Elle est constituée de matériaux naturels et sains qui sont économes d'énergie, comme le bois et la laine de mouton. Bien sûr, leur fabrication réclame davantage. Maintenant, je vais vous expliquer oralement un petit schéma. Donc, dans la maison, il y a un collecteur solaire, qu'on appelle souvent panneau solaire, dans la vie de tous les jours. Il y a une super isolation pour la chaleur en hiver. Il y a aussi pour la fraîcheur en été. Un poêle produit aussi de la chaleur. Bien sûr, un poêle à bois ou une pompe à chaleur qui va prendre l'air chaud et qui le transformera en air frais ou vice versa. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote qui montre que avant la France s'est mise à l'écologie tardivement. Bien sûr, maintenant elle a bien sûr rattrapé. En 1985, un couple a voulu acheter des pompes à chaleur, sauf qu'il n'y en avait pas en France, mais qu'en Allemagne. Pour que vous compreniez un peu financièrement ce que c'est une maison écologique, un 100 mètres carrés coûte 115 000 euros, donc maison écologique. 180 000 euros quand c'est une maison haut de gamme écologique. Un 100 mètres carrés d'une maison normale est à 100 000 euros. Bien sûr, dans la maison écologique, il y a des inconvénients, comme le terrain. Donc certaines maisons écologiques ont besoin de caractéristiques différentes pour un terrain. Il y a aussi les architectes. Tous les architectes n'ont pas les compétences pour savoir comment construire une maison écologique. On est déjà à plus de 750 euros avec les panneaux solaires à l'année, donc d'économie en argent. Il y a une économie de 1000 euros pour la consommation d'énergie. Bien sûr, en ce moment, même de nouvelles maisons écologiques se construisent, rondes en pierre qui tournent ou hautes en bois. Ne vous découragez pas, mais passez à l'écolo pour un monde meilleur.
Les écologiques sont fabriquées en bois, en chanvre, en paille, en terre crue, en briques monocrues et en laine de mouton. Le chanvre. Le chanvre est une plante qui demande peu d'engrais et peu d'eau. Mélangée à de la chaux, ses fibres constituent un béton que l'on dépose entre des planches de coffrage, les banches. Une fois ce béton de chanvre bien sec, on les retire et on protège le mur à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide d'un enduit. Pour les prix, c'est environ 500 euros le mètre carré. Pour limiter les prélèvements de ressources naturelles lors de la construction des logements, maisons ou appartements, on peut recourir à des matériaux d'origine renouvelable comme le bois, le chanvre, la paille, la terre crue ou les briques monomures. Le bois est un matériau recyclable, renouvelable qui emmagasine du CO2 pendant sa croissance et le garde prisonnier lorsque l'arbre est coupé. En outre, il est 15 fois plus isolant que le béton.
La terre crue. Comme la paille, la terre crue est un matériau recyclable, renouvelable, non polluant et disponible localement. On peut le monter entre deux planches ou utiliser des briques faites d'un mélange de terre et de chaux passées sur une presse et mises à sécher pendant plusieurs semaines. Pour les prix, environ 60 euros le mètre carré.
Pour ceux qui préfèrent un matériau plus classique, les briques monomures présentent un bon compromis. Ces briques de terre cuite épaisse, de 30 à 50 cm, sont parcourues d'alvéoles. L'air qu'elles contiennent et leur forte inertie thermique isolent bien le bâtiment. D'une grande résistance, elles permettent des constructions de plusieurs étages et les maçons professionnels s'y adaptent facilement.
La laine de mouton. Isolant, inattendu, la laine de mouton se présente en rouleau. On la recommande pour les régions atlantiques, car il peut accumuler l'humidité et la libérer sans s'abîmer, contrairement au chanvre qui moisit, explique Alain Drouilleux. Matériau recyclable, renouvelable et peu Énéreux. Les prix sont de 13 à 14 euros le mètre carré. Et après la musique, place au groupe qui va nous parler de Colmar.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Aujourd'hui, nous allons parler d'une ville que vous connaissez bien. Je vous la donne en mille, Colmar.
C'est une ville de 70 000 habitants. C'est donc la commune avec le troisième nombre d'habitants le plus important en Alsace. Elle possède un riche patrimoine architectural, notamment une ancienne collégiale, plusieurs couvents, un théâtre, un cinéma, une médiathèque, des canaux, dont la célèbre Petite Venise et les célèbres maisons du Moyen-Âge. Son climat et la haute nappe phréatique sont particulièrement propices à la culture de la vigne et lui valent le surnom de capitale des vins d'Alsace. C'est également une ville de culture. Elle abrite le musée Unterlinden et donc le retable d'Isenheim. Colmar est par ailleurs la ville natale de Jean-Jacques Valls, plus connu sous le nom de Hansi, et du créateur de la Statue de la Liberté à New York, Auguste Bartholdi, dont l'anniversaire a été fêté récemment le 2 août.
Le nom latin de la ville est Columbaria. Colmar est mentionné pour la première fois au 9e siècle. C'était une ville libre du Saint-Empire et faisait partie de la Décapole. La Décapole était l'alliance de 10 villes libres dans le Saint-Empire romain germanique. Elle connaît un développement rapide à la fin du Moyen-Âge et au cours de la Renaissance. Colmar est cédé à l'Empire allemand en 1871, puis est réannexé à la France en 1918, suite à l'armistice.
as pu la reconnaître, c'était la musique de l'animé Le Château Ambulant. Son nom n'est pas là pour rien. Le réalisateur Hayao Miyazaki s'est inspiré des maisons colmariennes pour cet animé.
Se trouvant dans la plaine, Colmar est à 197 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer et a la particularité rare d'abriter une cour d'appel, bien que n'étant pas chef-lieu de région, mais du département. Nous allons vous parler de la petite maison de Colmar, la plus petite maison de Colmar. Elle se trouve à l'angle de la place de l'école et de la rue des Marchands. Imaginez-vous deux grandes maisons qui semblent se toucher. Entre elles se trouve une troisième maison de 25 mètres carrés qui s'accroche aux deux autres et s'appuie sur une des deux. L'architecture de la gare de Colmar représente d'ailleurs un wagon.
Les festivals de Colmar, la Foire au Vin par exemple, et ses prestigieux invités comme Sting ou Iggy Pop, ou le Salon du Livre, qui se déroule chaque année en novembre et où on retrouve des écrivains célèbres. D'ailleurs, avez-vous remarqué le cadran solaire de la cathédrale collégiale Saint-Martin ? Nous allons passer la parole au prochain groupe qui va détailler le sujet des cadrans solaires.
Avec mes insomnies, mes souvenirs, esclave d'une partie, je me sens partir. Je voudrais passer pour mort pour être plus libre. Quand je me remémore, c'est pour guérir. Et les ombres m'embrassent doucement. La raison me quitte en pleurant. Et je crie sous mes draps. Peu, mais je pleure comme je veux, je crois en mes voeux. Je rêve d'être mieux, ouais, le temps se fait vieux. Et ça m'émeut, et que le passé qui me rend heureux. À mon cou, les larmes s'agrafent, le cœur serré par l'angoisse. Dans mon trou de mémoire, enterrez-moi, je signerai mon épitaphe. Cycle du chagrin, 300 ans reposera. Je vis ton art, c'est pas pour rien que toutes mes nuits sont sans couleur et sans ferveur. Je tue mon bonheur, je ferme les yeux car il me pique. Je suis créateur de mes douleurs, j'ai égaré Madame de Pique. Les ombres m'embrassent doucement. La raison me
Bonjour et bienvenue sur RDL 103.5. Aujourd'hui, Yann, Romane, Margot et Juliette vont vous présenter l'heure au fil du temps.
La première invention de l'homme pour mesurer le temps est l'ombre d'un arbre. En Égypte antique, on a remarqué qu'en observant l'ombre de l'arbre, on s'aperçoit qu'elle se déplace en décrivant l'arc de cercle. Il suffit de graduer son déplacement et on peut mesurer la course du temps. En remplaçant l'arbre par un bâton, on obtient le premier cadran solaire. Les Égyptiens utilisaient la clepsydre, grand vase à sa base graduée à l'intérieur et qui laisse échapper à mince filet d'eau. Les Grecs l'ont perfectionnée pour la rendre plus précise. Ils lui ont ajouté un cadran et une aiguille, la transformant en un véritable instrument de mesure. D'origine inconnue, le sablier est basé sur le même principe que la clepsydre, excepté que l'eau est remplacée par du sable. Il sert plus à mesurer les intervalles de temps qu'à indiquer l'heure. Une anecdote couramment citée est celle de Christophe Colomb qui, en 1492, lors de son voyage vers l'Amérique, utilisait pour faire le point un sablier qu'il retournait depuis son départ toutes les demi-heures.
Ces outils étaient peu précis sur de longues périodes et les écarts s'accumulaient. Dans le temps, des horloges mécaniques se sont créées, mais comment ça marche? Tout d'abord, il existe deux principaux types d'horloges bien distinctes. Les horloges à quartz et les horloges mécaniques. Les horloges à quartz allient le côté pratique et le côté esthétique pour ceux qui ne souhaitent pas s'encombrer d'un remontage fréquent du mécanisme. Et il y a les horloges mécaniques. Véritable travail artisanal, ce type d'horloge ravivera plutôt les personnes soucieuses de garder la tradition horlogère, telle que des passionnés. Une horloge mécanique est dotée d'un mouvement, c'est-à-dire un ensemble de roues en métal qui dans le seul but de faire tourner les aiguilles. Et pour avoir l'énergie nécessaire à cette rotation, au lieu d'utiliser des piles, comme c'est le cas pour les horloges à quartz, on utilisera un ressort interne puissant qui, en le remontant, diffusera cette énergie dans le rouage pour tout faire fonctionner.
Hey you, look kinda grim today. Pull through, there will be a brighter day. So hold your head up high and breathe in deep.
I know there's something heavy on your mind. Control is something you will never find. Holding on to something you can carry by your side. When the world came to tear you down,
you stood alone and found that there is love all around you. So
smile for the people that need to see you smile. We'll get by.
Coming out at night to play a little song for you when you rest beneath the stars.
At times you will need to stay aware. At times don't improve a lack of care. But you'll find what you need if you just open up and see.
When the world came to tear you down,
you stood alone and found that there is love all around you. So
smile for the people that need to see you smile.
Smile, 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 'cause if you smile for the people that need to see you smile, we'll get by.
de nombreux autres phénomènes, Galilée étudia le pendule oscillant et nota que la durée d'un aller et retour complet du pendule semblait être remarquablement constant pour un pendule donné. Il décida en 1641 un projet d'horloge réglé par un pendule oscillant. Sans la construire, ce sont finalement Christian Huygens et Salomon Coster qui construisent la première horloge à pendule en 1657.
Le progrès technique est important, le progrès conceptuel l'est encore plus. Les fonctions régulatrices et motrices sont clairement identifiées et séparées, ce qui va rendre possible des réglages précis. Les premières horloges retardent la chute d'un poids grâce à un mécanisme oscillant irrégulier au travers d'un échappement. Les horloges à pendule entretiennent le mouvement oscillant régulier du pendule en prélevant au travers de l'échappement juste l'énergie nécessaire à un poids qui descend.
La fréquence de remontage dépend de son ressort interne. Il peut être quotidien, hebdomadaire, bimensionnel ou même annuel, comme c'était le cas pour les pendules 400 jours. D'où leur nom. Et les horloges mécaniques, il y en a pour tous les goûts.
Des pendules murales aux pendules à poser, en passant par les coucous et les comptoises, vous aurez l'embarras du choix pour cette catégorie d'horloges. Des rondes, des carrés, en métal, en bois ou en verre, parfois même ornées de pierres naturelles, vous trouverez à coup sûr votre bonheur.
Maintenant, nous connaissons les horloges modernes avec les moyens plus précis et plus compacts. Ont été développés en la matière l'horloge à quartz et constitué un véritable progrès. Au cours du 18e siècle, il est bon ton qu'on en a les moyens de posséder une pendule. Les raffinements de son décor et sa précision indiquent la richesse de son propriétaire.
Cette précision n'est à l'époque d'aucune utilité dans la vie courante, mais le goût du dernier cri technologique n'est pas une manie apparue au XXe siècle. Au cours du XIXe siècle, l'industrialisation de l'horloge permet petit à petit à tout de posséder une horloge ou une pendule. En même temps, la diffusion de l'heure va se répandre avec le télégraphe et l'uniformisation du tout du temps deviendra nécessaire, en particulier avec le développement du chemin de fer qui oblige à synchroniser les horloges d'un pays entier. Puis, le temps va aussi s'introduire dans les usines avec la mesure du temps de travail et de la productivité. Vous pouvez retrouver cette émission demain matin à 7h30 en rediffusion et retrouvez-nous demain midi pour un nouveau mini-mag avec les stagiaires.